Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Je déclare l'audience ouverte.
Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
Bonjour Jean Reinhardt.
Bonjour Mathieu Delahousse.
Vous êtes un avocat spécialisé dans le droit des affaires et vous vous êtes illustré entre autres dans l'affaire Kerviel, mais on vous retrouve aussi dans des dossiers terroristes. Votre implication est bien sûr professionnelle, mais aussi, comme vous allez nous le raconter, très personnelle. Votre première grande affaire terroriste, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. C'est une entreprise, la société Sodexo, qui vous demande de représenter la famille de l'un de ses salariés, Frédéric Boisseau, qui se trouvait au siège du journal par hasard à la mauvaise heure et le mauvais jour.
Nous sommes le 7 janvier. Les frères Kouachi s'égarent dans un premier temps dans un autre immeuble. Puis ils vont rentrer dans un deuxième immeuble, bon malheureusement, très 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 énervé. Et ils vont tomber sur une équipe qui est dirigée par Frédéric Boisseau. Et ils vont se mettre à hurler en disant « Mais où sont les locaux de Charlie Hebdo ?» Il faut bien comprendre que Sodexo venait d'avoir à l'instant même la gestion de l'immeuble dans le terme de propreté, de gardiennage et autres. Et donc, nous avons Frédéric Boisseau qui est en train d'être dans les locaux pour un repérage. Donc, il est totalement sidéré devant cette situation en disant, mais il ne comprend même pas, il ne savait même pas qu'il y avait donc les locaux de Charlie Hebdo qui sont dans les étages. Et il essaye de répondre assez directement aux terroristes, aux frères Kouachi, en disant, mais de quoi vous me parlez? Et ceux-là, extrêmement énervés, on verra qu'ils savent tirer très vite et très rapidement, lui envoie 2 balles dans l'estomac, ce qui vont faire en sorte qu'il va s'écrouler. Il est accompagné de 2 de ses collègues, un qui vont crier en disant « mais on est de la maintenance, on est de la maintenance ». Il est trop tard pour Frédéric, il va s'effondrer dans les bras de son collègue. Il va dire à son collègue qu'il va mourir et il meurt dans des conditions qui ont été décrites au cours du procès des attentats de janvier 2015. L'autre collègue va aller dans la rue pour prévenir les secours et demander à ce qu'ils viennent. Et Frédéric Boisseau va petit à petit perdre beaucoup de son sang, puis conscience, puis malheureusement va décéder.
Comment la femme de Frédéric Boisseau, Catherine Gervasoni, va être mise au courant de ce qui est arrivé à son mari? C'est la police qui l'appelle? Ce sont les collègues de Frédéric qui la préviennent?
Le collègue est très secoué, va appeler Catherine Gervasoni parce qu'il connaît Catherine Gervasoni en disant il y a quelque chose de très grave pour Frédéric. Il n'aura pas le courage de dire bien évidemment ce qui s'est passé et Catherine va quitter son emploi. Elle va venir sur Paris alors qu'elle habite près de Fontainebleau. Elle va être récupérée par un ami et la journée va être tragique parce qu'elle va mettre une journée avec des allers-retours à l'Institut médico-légal pour exactement comprendre ce qui s'est passé et comprendre surtout que son mari est décédé.
Vous qui êtes un pénaliste spécialisé dans les montages frauduleux, les abus de biens sociaux, les escroqueries, comment on arrive à pouvoir trouver les mots pour réconforter une victime de terrorisme?
On le fait très naturellement. D'abord parce que lorsque vous faites, c'est très particulier ce que je vais expliquer, mais lorsque vous faites du pénal et du pénal des affaires, vous avez devant vous des hommes et des femmes qui sont perdus. C'est-à-dire qu'elles ont perdu leur repère et lorsqu'elles sont en garde à vue, lorsqu'elles sont devant un juge, elles sont totalement abruties, paumées, désorientées. Et donc, vous apprenez à comprendre les silences des individus, à comprendre leur désorientation. Et à ce moment-là, vous créez par habitude, par force, à prendre les personnes par la main et puis peut-être leur parler, savoir beaucoup les écouter et savoir leur dire un peu « ben voilà quelles vont être les prochaines étapes ». Donc, c'est ça ce qui s'est passé pour Madame Gervasoni. D'abord, de l'écouter, de sécher ses larmes, de voir avec elle ce qui a pu se passer, d'essayer de travailler le quotidien, c'est-à-dire quel va être son lendemain, quels vont être ses moyens de ressources financières. Mais c'est tous ces éléments qu'on apprend et puis on apprend à ouvrir le code pénal sur d'autres chapitres que celle sur l'abus de biens sociaux, le faux, l'usage de faux, etc. Et on va apprendre ce que c'est que tout ce qui concerne le terrorisme, et il n'y a pas lieu de le développer là. Mais c'est vrai que c'est une très belle rencontre. Je continue, 6-7 ans, bientôt 7 ans après, à voir Catherine Gervasoni. C'est une femme d'un courage inouï. Je rappelle, selon la formule, c'était le premier tué, mais le dernier enterré. C'était celui sur lequel l'autopsie a été longue, très longue, et que ça a été difficile. Et puis, c'est l'ignorer, c'est-à-dire qu'il n'était ni journaliste, ni policier. Et donc, tout ça fait que, vraiment, lorsqu'on y repense, ils sont tous victimes innocentes, et lui n'appartenait à aucune, je dirais, particularité, communauté ou autre. Et ce qui fait que ça a été celui qui a été le plus souvent absent des médias, pas forcément au désespoir de Catherine Gervasoni, mais il faudra toujours continuer à lui rendre hommage.
Comment on arrive, quand on est avocat, à ne pas être totalement obsédé par un pareil dossier ? Comment on fait, tout simplement, à continuer pour les autres dossiers ?
Alors, d'abord, on veille à continuer sur les autres dossiers parce qu'on se doit, le cerveau se doit d'être très performant et aigu, et que finalement, de travailler sur d'autres dossiers vous permet de vous consacrer, de garder une case intacte d'émotion, d'accompagnement, de force, de spiritualité, parce que Catherine a fait toute une démarche spirituelle qui lui appartient d'ailleurs, et je trouve qu'elle, en plus, elle est belle, elle a été voulue, elle est très personnelle. Et c'est vrai que c'est très émouvant de voir comment une femme cherche petit à petit à se reconstruire, et on s'aperçoit surtout une chose, c'est comme le chemin est long, particulièrement long, parce qu'il y a une violence et une publicité à cette violence. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Lorsque je suis, au mois septembre-octobre, avant le 13 novembre, je sais une seule chose, c'est que le chemin est long, que c'est d'une violence absolument inouïe, que s'envahit de douleur et de tristesse ceux qui sont victimes d'actes terroristes, ce qu'on appelle les endeuillés ou les survivants.
On n'imagine pas être à son tour endeuillé soi-même quand on est avocat, et pourtant, c'est ce qui va vous arriver lorsque le 13 novembre, vous apprenez que votre neveu Valentin, qui d'ailleurs est lui aussi avocat, se trouvait au Bataclan. Ce sera sa dernière soirée qui a été reconstituée par l'instruction, et on en connaît aujourd'hui tous les détails.
Le dernier bruit qui sort de lorsqu'il quitte le cabinet, c'est qu'il fait ses pas en arrière, il a oublié d'imprimer ses billets du concert. Et donc, il y part avec son ami, il y va, et puis il poste, et c'est comme ça que nous le saurons, comme beaucoup l'avaient fait à ce moment-là, que bien évidemment, il est au concert, parce que c'est un beau moment, c'est un moment de joie. Et puis d'ailleurs, il devait partir après en déplacement professionnel, c'est pour ça qu'il avait sa robe. Et puis, il devait aller à un concert 10 jours plus tard, classique, donc pour dire que Valentin était très ouvert en termes de musique. Mais il est 10 heures du soir, et nous avons les premières informations qui sortent. Et donc, les premières inquiétudes, c'est dire que tout le monde, en tout cas, un de mes garçons m'appelle en disant « Valentin est au Bataclan ». L'information était pour moi totalement anodine. Elle devient en un millième de seconde grave. L'inquiétude surgit auprès de moi, mais auprès de bien sûr, ma sœur, mon beau-frère et de tous ceux qui l'entourent. Et on se dit, mais que se passe-t-il ? Nous passons dans un autre monde. Nous sommes dans le monde de l'inquiétude. Et c'est vrai que tous ceux qui ont raconté pendant 5 semaines au cours du procès ce qui s'est passé pendant ce temps où on n'a pas l'information, on est inquiet, on a une brûlure dans le ventre, on se dit, mais que s'est-il passé pour chacun d'entre eux ? Je peux vous dire qu'effectivement, nous l'avons vécu, et on devient, je dirais, dingue. Voilà, il faut être clair, c'est qu'on perd ses repères, on devient totalement libre, et qu'on décroche son téléphone et on essaye d'appeler la terre entière. Je mets de côté, bien sûr, Valentin, mais je me dis, j'ai peut-être une chance d'avoir très vite une information, et que s'est-il passé ? On appelle des amis journalistes, on appelle le procureur, on appelle tout le monde en disant, est-ce que vous avez une information ? Rétrospectivement, on apprendra que tout ça était totalement inutile au regard du désastre que c'était le Bataclan. Nous avons cette inquiétude aussi parce qu'il y a des otages, donc est-ce qu'il n'est pas otage ? Donc à ce moment-là, il faut surtout s'arrêter de parler, il faut s'arrêter de chercher à le joindre, parce que s'il n'est pas décédé, s'il n'est pas blessé, peut-être est-il otage, parce qu'on sait qu'il y a une prise d'otage. Donc tout ça se double au fur et à mesure de l'inquiétude sur l'inquiétude. Et je vous assure qu'on arrête de respirer à ce moment-là. Il y a le cerveau qui se met en ébullition à rechercher l'information parce qu'on sent poindre subitement, comme une boule de feu qui arrive sur vous, la douleur absolue. En fait, vous perdez tous vos moyens, mais vous avez des moments assez forts en disant, ben voilà, tiens, j'ai une autre idée, tiens, je vais me rendre sur place, tiens, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Donc, on n'a qu'une envie, c'est d'abord, d'entendre de l'espoir. Donc, on entend qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent, mais qui sont blessées, qui sont pas bien, qui sont bousculées. Donc, on se dit, mais il a perdu son portable, c'est bien sûr pour ça qu'il nous rappelle pas. Peut-être même est-il rentré chez lui, puis qu'il s'est couché sans vouloir nous dire, sans nous inquiéter. Puis on a une information concernant Eva, qu'elle est blessée, mais qu'elle ne peut pas nous dire ce qu'il en est exactement sur Valentin. Donc, on repart dans le désespoir. On envoie tous ses amis dans tous les hôpitaux, tout ce qui a été raconté par tout à chacun, avec la photo de Valentin. Est-ce que vous l'avez vu? On voit les internes absolument remarquables qui s'interrogent, regardent la photo, puis nous disent que non. Donc, c'est tout cet ensemble qui fait que vous vous dites, je veux savoir, vous téléphonez à 4 heures du matin à un procureur, vous n'auriez jamais imaginé qu'à 4 heures du matin, vous aviez cette possibilité d'appeler qui que ce soit. Je ne pouvais qu'être d'une inquiétude folle.
Plusieurs années après est venu le temps du procès, dans lequel, au-delà de votre histoire personnelle, vous défendez de nombreuses victimes. Face à un tel drame, est-ce qu'on croit encore à la justice? Est-ce qu'on se dit qu'elle va permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé?
Encore plus. Alors d'abord, ça protège. Hein. Je dis toujours que mon histoire, ça me permet à une seule chose, c'est de comprendre parfaitement tous ceux qui ont défilé dans mon bureau. Et j'accompagne 23 familles endeuillées. Et donc, on parle le même langage. Et donc, elles savent que lorsqu'elles viennent ici, elles auront le même langage et nous parlerons des mêmes choses de la même façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette robe, elle protège parce que on dépassionne beaucoup de choses. On met presque, je dirais, un sac de glace et on y va tout à fait tranquillement et on y va tout à fait sereinement. Et qu'on dit, ben maintenant, on va y aller méticuleusement, tel un chirurgien. Maintenant, on a subi le choc. Ben maintenant, on reprend les éléments, on les découpe les uns après les autres. On voit qui était quand, à quel moment, comment était l'organisation, quel est le trajet. Et cette façon de comprendre l'acte terroriste, je n'ai pas compris encore le mal. J'ai compris, en tout cas, le circuit qui a été utilisé par les terroristes. Et il y a une chose que je cherche à comprendre dans ce procès, c'est le processus du mal. Pourquoi va-t-on chercher à créer le mal, à détruire les individus, à détruire les êtres? Pour quel but, dans quelle finalité? C'est tous ces éléments sur lesquels j'attends du procès qu'il m'explique.
Alors, au-delà du cas de Valentin, vous êtes dans le procès du 13 novembre, l'avocat de 114 victimes ou familles de victimes. Comment vous avez accompagné toutes ces personnes jusqu'à l'épreuve de l'audience? Je sais que vous avez tenu à toutes les rencontrer. Est-ce que vous vous souvenez par qui vous avez commencé?
Alors en fait, on a la liste hein, de tous nos clients, hein, tous ceux qu'on va accompagner. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer par une partie facile. Un homme jeune qui s'en est parfaitement sorti en apparence, parce que il est sorti assez rapidement du Bataclan. Depuis, il s'est marié, depuis, il a eu un enfant. Et depuis, je me dis, bah tiens, on va commencer par des choses simples afin d'éviter d'être pris d'émotion. Donc, je le reçois, le rendez-vous est fixé, il vient et nous parlons de choses et d'autres. Je commence à lui expliquer que le procès aura lieu dans telle et telle condition, la salle d'audience, le temps d'eux, etc., etc. Et puis, petit à petit, je lui dis, mais toi, où tu en es? Parce qu'on se tutoie assez facilement et rapidement, et tant mieux. Et je lui dis, visiblement, la vie est belle, les choses sont derrière toi, et la résilience a fait son œuvre. Et puis, subitement, il me dit, mais tu sais, quand même, chaque nuit, je me réveille vers 5 heures, j'ai des bouffées d'angoisse, je transpire. J'arrive dans une salle, je cherche l'issue de secours ou la porte que je dois utiliser. Et je me suis dit, oh putain de bordel, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que je me suis dit qu'une personne qui semblait vraiment avoir fait un très beau travail sur elle-même, parce que je sais qu'elle avait fait un travail, elle n'était pas blessée physiquement, qu'elle avait fait son travail sur elle-même, qu'elle avait vu un psy, qu'elle n'en avait pas vu depuis un certain temps, je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui va me donner des très bonnes nouvelles, tout va bien. En fait, tout va mal. Et là, je me suis dit, on est parti sur une galère absolue parce que il faut pas rêver. On va avoir 117, 120, 121 personnes qui vont défiler dans mon bureau et je vais les voir une fois, deux fois, trois fois. Je verrai si elles veulent témoigner ou pas. Mais dans un premier temps, je m'étais dit, tiens, au moins, il y aura des personnes faciles. Non, personne ne m'a dit, je suis soigné, je n'ai plus de sujet, je n'ai plus d'angoisse. Et ça, c'est absolument terrible parce que je me suis dit que est-ce que la réparation est si lourde? Est-ce que l'accident est si profond? Et là où je me suis trompé, je me suis trompé. Je me suis dit que les choses pouvaient parfaitement se dérouler. En fait, elles ne pouvaient pas parfaitement se dérouler. Chacun avait sa propre histoire et sa propre angoisse qui naissait au sein d'elle, un peu comme une façon dont on aurait enlevé un des deux poumons.
Vous avez été confronté dans ce drame à ce que vous appelez un effet Tchernobyl. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors l'effet de Tchernobyl, je m'en suis très rapidement aperçu parce qu'un jour j'ai voulu téléphoner à un client et sa femme m'a répondu qu'il était mort. Et donc je me suis dit, mais que s'est-il passé ? Mais vous n'êtes pas informé, en fait il est décédé un an et demi après les attentats et je me suis dit, mais de quoi est-il mort ? Et la personne m'a répondu tout à fait tranquillement, mais d'immense chagrin. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est quelque chose de si rare ? Et je me suis dit, mais comment vont-ils ? Et je dis pas eux, les victimes directes. Ce sont l'entourage, la famille, le père, la mère, la sœur, etc. Et je me suis aperçu que subitement, la douleur étant tellement effroyable, le choc étant tellement immense, que nous avons eu, et nous en comptons déjà, à mon avis, au moins une 20-25 que nous avons compté, d'hommes et de femmes qui ont vécu dans leur chair difficilement ce départ, ou bien même des fortes blessures, n'ont pas su prendre ou être accompagnés et ont fait naître en eux, malheureusement, des maladies graves, des cancers ou d'autres maladies graves et en sont décédés. Je pense à cette femme qui, merveilleuse, qui était absolument en pleine santé, qui a 6 mois et 3 jours après les attentats a été voir son médecin pour des douleurs au bas-ventre et c'était un cancer ovarien. Dieu merci, là, dans un premier temps, la médecine a su travailler le sujet et elle a été sauvée, mais malheureusement, la récidive est intervenue, mais moins d'un an après, elle l'a emportée. Je pense à ce jeune qui s'est après suicidé, mais lui était membre du Bataclan. On voit bien que s'approcher de ce îlot de douleurs et de désastres ne laisse indifférent absolument personne. Absolument personne. Effet de Tchernobyl, parce que, encore une fois, lorsqu'on s'approche sans protection de cette source radioactive du malheur, eh ben, nous en subissons tous les conséquences.
Et dans ce malheur, il y a une institution de la République qui était normalement chargée de réparer les blessures, mais qui, à vos yeux, a dysfonctionné.
Il y a une autre saloperie qui est apparue, qui s'appelle le fonds de garantie. Et le FGTI a été destructeur. Je parle avec beaucoup de solennité, parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas une personne, une victime blessée psychologique, blessée physique, endeuillée, qui est ressortie du fonds de garantie en disant « j'ai été considéré, j'ai été entendu ». On a l'impression d'être devant un assureur avec un problème de dégâts des eaux. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué parce que ça aurait dû contribuer à la réparation, ça contribuait à la destruction. Et je pense qu'on devra beaucoup réfléchir que tant qu'on continuera de mêler les accidents de la route avec des personnes qui ne sont pas assurées, avec des victimes du terrorisme, on arrivera toujours à cette situation dramatique. Quand le fonds de garantie discute euro après euro, un problème de préjudice, alors que la personne a perdu des papiers, etc. Mais on a envie d'être très violent.
Merci Jean Reinhart. Merci de nous avoir fait partager votre témoignage sur la douleur des victimes de l'attentat du 13 novembre. Et merci enfin de nous avoir permis aussi de mieux comprendre dans cet épisode d'Au cœur du crime.
Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs, une musique de Michaël Gauthier. Réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.